Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Je donne la parole à ceux que je rencontre sur mon itinéraire. Et j'aime bien m'intéresser à ceux qui ont des parcours de vie un peu rigolos, ou des gens qui font un peu des virages comme ça dans leur quotidien, dans leur vie. Julie, je sais très peu de choses sur toi. Je sais simplement que tu as retapé un camion dans lequel on est assis et qui va te servir de logement dans les prochains temps. Donc j'aimerais que tu te présentes, tu me dises un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce mode de vie, la van life, qui est très tendance en ce moment, on en parle de plus en plus. Donc voilà, comment tu as découvert ce mode de vie et pourquoi est-ce que tu fais ce choix de tout quitter pour vivre full time, à temps complet, dans ton van?
Oui, alors je m'appelle Julie, je viens d'Alsace, j'ai 34 ans, j'ai grandi près de Colmar en Alsace. Et du coup, la question c'était quoi? Et bien pourquoi je pars vivre dans mon van, c'est ça? Et bien en fait, le voyage ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à voyager quand j'avais 22 ans, donc ça fait maintenant 12 ans. Et finalement, j'ai fait des virages de manière assez régulière, comme ça, tous les 2-3 ans. J'ai pris des tournants, j'ai pris des choix de vie où un coup je me sédentarisais, un coup je partais, un coup je me sédentarisais, un coup je partais. Et là, je pense que je suis à nouveau dans un virage de voyage. Qui correspond tout simplement à la suite de mes projets.
Quand tu dis le voyage, c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps, reviens sur cet itinéraire, ce chapitre de voyageuse. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage et par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui fait que tu retournes et tu continues à vouloir te mettre en mouvement?
En fait, ce qui a commencé, c'est que justement à cette époque où j'avais 22 ans, j'ai fait mon premier voyage seul en sac à dos, tout ça, en stop, donc c'était un voyage un peu sympa. Je pense que j'avais besoin de trouver des réponses, de me connaître, de découvrir, rencontrer d'autres personnes, connaître d'autres cultures. J'étais dans une vie où j'avais pas vraiment réfléchi à ce que je voulais vraiment. J'avais fait un cursus classique, j'étais allée à la fac à l'époque, et puis je m'y reconnaissais pas trop. Je me disais, c'est bizarre, je suis là, mais je comprends pas bien ce que je fais là. Donc assez rapidement, j'ai décidé d'arrêter la fac, et je me suis dit, je vais partir en fait. J'avais aucun projet, mais c'était vraiment dans l'objectif finalement, je sais pas, de me découvrir. En fait, je crois que souvent je prends des décisions sans trop savoir ce que je cherche, mais finalement, les réponses, elles arrivent en chemin. Et c'est quelque chose qui a été toujours un peu initiatique pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je pense que dans mon choix aujourd'hui de partir en van, il y a toujours un petit peu de ça, parce que j'aime bien l'effet de surprise. Et en même temps, aujourd'hui, il y a quand même des projets un peu plus construits. Je sais pas, peut-être qu'on en parlera plus tard.
On peut en parler, parce que dans la vie du voyageur, il y a quand même une réalité à prendre en compte, c'est la réalité économique. Souvent, on nous interroge quand on voyage, c'est comment est-ce que tu fais pour arriver à voyager et vivre économiquement?
Alors à l'époque, j'avais un mode de vie de voyage qui était très cheap, on va dire, pas très cher. C'est-à-dire que je faisais du stop. Donc pour moi, j'adorais ça à l'époque. Aujourd'hui, je le ferais plus. Mais à l'époque, j'adorais ça parce que ça me permettait de rencontrer des gens, d'apprendre des langues et tout ça. Donc je trouvais ça trop bien. Je dormais aussi dans les bois, dans ma tente. Donc voilà, du coup, forcément, je dépensais pas beaucoup d'argent finalement, à part la nourriture que j'achetais. Aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de faire ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai créé finalement une activité professionnelle en ligne. Du coup, ça me permet de voyager et de travailler de n'importe où dans le monde. Donc, du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est mon activité en ligne qui me permet de gagner de l'argent et de pouvoir voyager librement, tout simplement.
Je reviens sur ce que tu viens de dire. Tu voyageais en stop, mais aujourd'hui, tu n'aurais plus envie de le faire ou tu serais plus capable de le faire. Pourquoi? Pourquoi tu es revenu sur cette idée du voyage en stop?
J'ai vieilli. En fait, je pense que quand j'étais jeune, j'étais plus jeune, alors oui, je suis pas vieille, mais bon, c'était quand même il y a 12 ans, j'étais dans un niveau, j'aimais moins le confort, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime bien avoir un peu mes affaires, un certain niveau de sécurité. Quand j'étais plus jeune, je me posais pas toutes ces questions. Je pense que même j'avais envie aussi de me découvrir dans mes limites, dans ce que j'étais capable de faire ou pas, mon audace, mon courage et tout ça. Aujourd'hui, j'ai moins envie de ça. Peut-être aussi que mon audace et mon courage, je le mets dans mon entreprise. Donc j'ai peut-être moins envie de le faire de manière physique, en faisant du stop, etc. Et puis aussi, je l'ai déjà fait, tout simplement. Je sais ce que c'est que de parler à 10 personnes différentes dans la même journée pour traverser des régions au Canada, par exemple. Donc du coup, j'ai plus forcément envie de le faire aujourd'hui. Je préfère vivre d'autres expériences, tout simplement.
À partir de quel âge t'as vieilli?
Mais c'est pas... Alors sur le plan physique, sur le plan psychique, on n'a pas... Ça va. Sur le plan physique, je sais pas, vers les 28, 30 ans, je pense que j'ai commencé à aimer avoir un peu plus de confort, à aimer avoir peut-être un peu plus de routine, un peu plus d'habitude, des choses comme ça. Et encore que, aux yeux des autres, je reste quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, je dirais, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la norme, entre guillemets, quoi.
Je veux bien rester un peu sur cette aventure de stoppeuse. Est-ce qu'on en croise beaucoup ? Qu'est-ce que tu gardes de cette époque de voyage en stop ? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous sur l'expérience de stoppeuse ?
Ouais, alors déjà, ce que j'aimerais partager, c'est que j'en ai fait une bonne expérience. Parce que tu vois, tu me demandais pourquoi tu le ferais plus aujourd'hui. Et en fait, c'est pas du tout parce que j'en ai un mauvais souvenir et que, avec la maturité, je me suis rendu compte que c'était dangereux, des choses comme ça. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, si j'en avais besoin, je le ferais à nouveau sans problème. Enfin, voilà, une question de nécessité, si j'ai besoin de me déplacer, etc. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment un discours rassurant par rapport au fait de faire de l'autostop, même en étant une femme seule. Après, ce que ça m'a apporté, ben, des rencontres, la possibilité de parler de la langue avec des locaux. Ça m'a apporté beaucoup d'intuition, en fait, parce que finalement, mon baromètre, c'était... je me suis toujours dit, si je ne suis pas dans le bon mood... Vous savez, il y a des matins, on se lève comme ça, on est un peu gris dans la tête, pas trop motivé, etc. On dégage pas un truc super et tout. Et moi, je crois qu'on vraiment, on s'attire aussi ce qu'on dégage. Et du coup, je me disais, si je suis pas dans un bon mood, même si j'ai besoin de me déplacer et que j'avais prévu, j'y vais pas, tant pis, je reste un jour de plus, je me repose et j'attends d'être bien pour faire du stop. Beaucoup d'intuition parce que forcément, les personnes qui s'arrêtent, voilà, des fois, j'avais besoin, mais la personne, je la sentais pas trop, donc j'y allais pas. Je disais, non, mais c'est bon, voilà. Et puis finalement, ça m'a aussi permis d'aller au devant des opportunités. Finalement, le stop, pour moi, ça a toujours été très dans la spontanéité. C'est-à-dire que des fois, je pensais aller dans une direction, puis finalement, quelqu'un me proposait autre chose et la personne avait l'air sympa, c'était une rencontre intéressante. Et du coup, je me disais, ah bah tiens, je vais changer un peu mon plan, puis je vais aller dans une autre direction. Et ça me permettait de vivre des nouvelles opportunités ou découvrir des endroits que je connaissais pas, ou des fois de connecter avec des voyageurs aussi qui allaient dans un endroit auquel j'avais pas pensé. Et du coup, je découvrais des nouvelles choses.
Il y a cette notion, tu disais, tu parlais, c'est pas le mot que tu utilisais, mais de fluidité, où on parle de la loi d'attraction, quand on n'a pas de plan, quand on n'a pas vraiment d'itinéraire et quand on est ouvert à la rencontre, des fois il y a une forme de magie qui opère. Est-ce que tu pourrais m'en parler ?
C'est vrai que quand je suis partie à l'époque, j'ai jamais réfléchi à tout ça. J'étais pas du tout dans quoi que ce soit de développement personnel ou spirituel ou je ne sais quoi du genre. C'était juste un ressenti, je me suis dit je vais partir et effectivement c'est l'expérience que j'ai fait. En partant, de me rendre compte que finalement, en partant un petit peu sans plan, sans trop savoir, c'est aussi un petit peu... c'est comme si on donnait un espace disponible pour permettre à des expériences, à des rencontres, à des situations d'arriver, à des apprentissages aussi, ça dépend. Et au final, moi, je me rends compte que ça m'a vachement construit au fil du temps, au fil des années. Et je pense quand même qu'il y a toujours une petite part de moi, à chaque fois que je pars à nouveau, qui recherche un peu ça, justement. Sortir un petit peu de la routine très cadrée, on va dire, qui automatiquement limite tout ça pour retrouver une forme d'ouverture pour à nouveau m'enrichir, en fait.
Dans un interview que je faisais avec une jeune femme qui s'appelait Margot, elle me disait il faut y aller, il faut aller au-delà de ses peurs, il faut sauter sans filet et le filet apparaît.
Ouais, c'est clair. Et aussi, ce que je peux dire aussi maintenant avec un peu de recul, parce que forcément, sur le moment, je ne pouvais pas vraiment l'observer, c'est que quand je vois justement mes projets d'aujourd'hui et la direction et du coup les choses plus construites qui se font aujourd'hui dans ma vie et tout ça, je me rends compte que finalement tout s'est construit par petites pierres aussi au fil de ces rencontres et au fil de ces voyages, et c'était pas forcément prémédité. Et donc pour moi ça rejoint un petit peu ce que t'exprimes là, tu vois, c'est les choses elles arrivent et elles se font.
Regarde d'ailleurs.
Les rares d'ailleurs.
Le voyage, regarde d'ailleurs,
chemin le plus court pour se découvrir soi.
Julie, donc tu voyages depuis des années, t'as 34 ans je crois tu disais, hein, c'est ça. Là maintenant tu rentres dans une nouvelle étape de voyage, une nouvelle étape de ta vie. Donc t'as commencé par le stop, tu parlais du Canada, enfin donc t'es allé au-delà de l'Europe aussi, t'es revenu en Europe. Déjà, comment se repassaient tes retours et qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé vers ce mode de voyage maintenant, la van life ? Parle-moi un peu de tout ça.
Alors les retours au début ont été super durs, forcément, parce que j'étais aussi très dans une vie, c'était surtout socialement, où j'avais mon groupe d'amis du lycée, avec certaines habitudes, voilà. Et c'est vrai que de revenir là, donc forcément les habitudes de mon groupe d'amis du lycée, il n'a pas bougé. Et moi, j'ai découvert plein de nouvelles choses. J'ai aussi beaucoup changé. Forcément, le voyage, surtout à ces âges-là, ça fait énormément changer, énormément évoluer. Et donc c'est vrai que voilà, c'était un peu dur, je dirais, socialement, de se comprendre, de pouvoir partager des choses et d'être compris, d'être... C'est pas forcément que je leur demandais d'être d'accord avec moi, mais peut-être au moins d'avoir l'ouverture d'entendre ce que je pouvais vivre ou expérimenter. Maintenant, c'est quelque chose que je ressens plus comme ça parce que Bah maintenant, je suis un peu un loup solitaire, je dis souvent, comment dire ça, c'est vrai qu'en 10 ans, en partant et en revenant, automatiquement, justement, sur le plan social, il n'y a plus cet effet de meute, et donc maintenant, voilà, les gens ont l'habitude que je parte, que je vienne, et ils savent que je vis des expériences, etc., donc dans ce sens-là, maintenant, ça va.
Tu parles de manque de curiosité, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir partager ses voyages, mais peut-être qu'on apprend aussi à se taire, et on se rend compte que c'est de l'ordre de l'expérience, et que c'est compliqué de partager une expérience, vraiment quelque chose qui se vit.
Ouais, c'est clair. C'est ça. J'allais dire, c'était un peu l'immaturité de l'époque où je voulais tout partager, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs aussi, je me rends compte que finalement, petit à petit, le voyage est rentré comme une composante pleine de ma vie. C'est-à-dire que c'était plus ma vie, c'est l'Alsace, et je pars ponctuellement pour un voyage, et du coup, je raconte comme je raconterais des vacances, etc. Non, en fait, c'est devenu ma vie. Voilà. Même si c'était par phase, c'est-à-dire que des fois je restais plus longtemps en Alsace, des fois je repartais un peu, mais toujours est-il que ce mouvement-là d'aller et venir, c'est devenu vraiment ma vie.
Qu'est-ce que c'est que voyager? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le définirais? Julie, dis-nous, le voyage c'est quoi?
Le voyage pour moi, c'est beaucoup de nature déjà. C'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'au fil des rencontres avec les voyageurs, je me rends compte qu'il y a une personne, un voyage par personne, je pense, dans le monde. Donc pour moi les voyages c'est beaucoup la nature, la contemplation, forcément ça rejoint bien le projet Van Life, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque même j'allais pas dans les auberges jeunesse parce que pour moi même je voulais pas tous les soirs, je sais pas, faire la fête, rencontrer encore plein de personnes, etc., être dans des ambiances comme ça. Pour moi c'est vraiment, en fait c'est quand même pas mal de solitude, mais une solitude bénéfique et choisie, je dirais, et contact avec la nature, la contemplation, et puis beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, sentir, pour moi c'est beaucoup ça, c'est vraiment, tiens je sens qu'il y a un lieu qui me plaît, je vais y passer un peu plus de temps, tiens il y a une rencontre qui m'intéresse, je vais passer un peu de temps avec cette personne, ou alors je vais aller explorer un endroit en particulier.
On est dans ton van, je le disais avant au début de cette émission, on est quelque part sur les hauteurs de Siegolsheim, un petit village alsacien, donc en ce moment tu es en Alsace, qu'est-ce que tu fais ici?
Alors là du coup je viens de passer 2 ans en Alsace, et en fait j'étais censée partir il y a 2 ans, pile au premier confinement. Mais finalement, je suis bien contente d'être restée. Alors finalement, j'ai choisi de rester rapport à la situation du Covid au départ, voilà. Mais finalement, je suis bien contente d'être restée parce qu'à l'époque, mon départ n'était pas du tout construit. C'était, je dirais, encore un peu une envie de partir, mais sans projet vraiment, juste l'envie, comme je vais un peu de l'exprimer, de se ressourcer, de créer de l'espace, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de projet professionnel de construit. C'était un peu, je pars et puis on verra. J'avais une idée de ce que j'allais faire un peu après, mais je ne savais pas trop à ce moment-là. Donc du coup, j'ai passé 2 années à construire mon projet en ligne. Et du coup, maintenant, je pars avec un projet vachement plus construit.
Quel est le projet?
Alors, le projet, donc du coup, j'ai créé une activité de naturopathe en ligne, sachant que je suis une naturopathe depuis un certain temps. J'avais déjà créé une activité en présentiel, et d'ailleurs, c'était très intéressant, je suis contente de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai un peu étouffé dans ce format parce que ça ne me convenait pas du tout d'être finalement dans un cabinet, assise derrière un bureau. Forcément, ça ne correspond pas à mon besoin de renouvellement et d'ouverture. Donc du coup, c'est vrai que le format en ligne, déjà à l'époque, m'avait un petit peu attirée. Et là, avant le Covid, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément en rapport au Covid, mais déjà avant le Covid, je me disais, je vais créer une activité en ligne. Et donc, du coup, j'ai construit cette activité. Je travaille en freelance pour certaines sociétés. Je fais aussi des consultations, mais du coup en ligne. Et là, le projet, du coup, avec mon van, alors il est avant tout pour moi en termes de mode de vie, mais je l'ai un peu relié à mon projet professionnel et j'aimerais du coup rencontrer des centres de bien-être pour pouvoir leur proposer mes services. Mais j'ai aussi un petit peu envie de découvrir comment ça se passe dans différents centres de bien-être en Europe, parce que peut-être qu'à terme, c'est quelque chose que j'aimerais créer aussi, accueillir des personnes un peu qui de partout, qui veulent se ressourcer dans un endroit, puisque j'ai quand même vraiment cette affinité avec la nature.
Tu disais avant, le stop t'a arrêté parce que tu vieillissais, t'avais besoin de plus de confort. Mais vivre dans un van, est-ce que c'est réellement confortable?
Pour moi, oui. Il n'y a pas longtemps, je discutais justement avec une amie qui est donc ce qu'on appelle digital nomade, qui travaille en ligne, etc., partout dans le monde, mais avec un sac à dos. Et elle me dit, oh là là, pour faire le tri, mettre mes affaires, etc., dans un sac à dos. Aujourd'hui, moi, je crois que j'aurais vraiment du mal à me limiter à un sac à dos. J'apprécie vraiment avoir un peu plus d'affaires, un peu plus de choix de vêtements, un peu plus de choix de chaussures, des affaires aussi pour bosser, mine de rien. Donc le van, oui, pour moi, c'est quand même du confort. J'ai un bon lit. C'est pas la même chose que ma petite tente de randonnée et mon petit matelas quechua, quoi. Voilà.
Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
La van life, hein. Pourquoi est-ce que c'est tendance en ce moment? Pourquoi est-ce que plein de gens rêvent de ça ou se lancent dans ce mode de vie?
Je sais pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a eu un truc avec le Covid où, comme les hébergements étaient plus accessibles, parce qu'il me semble que pendant les confinements, il n'y avait plus d'hôtels, plus de... Enfin, il y a eu les hôtels qui avaient fermé. Après, il y a eu peut-être des réglementations qui ont fait qu'on ne pouvait pas vraiment, comme on voulait, avoir des hébergements. Et donc, c'est vrai que je pense que le camping-car, les vannes et tout ça, c'est devenu quand même un peu un moyen d'hébergement et de partir en week-end, de partir en vacances quand il n'y avait pas d'autres options, quoi. Donc, je pense que c'est, à mon avis, c'est comme ça que ça a démarré. Après, peut-être que du coup, les personnes qui partaient en week-end se sont dit, tiens, bah, en fait, c'est sympa d'être en van. Peut-être que je pourrais... Je sais pas. Voilà, je le vois comme ça. Peut-être aussi que cette période a permis à la plupart des gens, si je peux dire, ou en tout cas beaucoup, à avoir un peu des réflexions sur ce qu'ils voulaient vraiment dans leur vie. Et ça, c'est aussi peut-être une raison.
À savoir ce qu'on veut vraiment dans sa vie, cette notion d'alignement. C'est vrai que de plus en plus de gens aujourd'hui remettent le sens, hein, au cœur de leurs préoccupations. Souvent, on se rend compte qu'on se retrouve dans une vie qu'on n'a pas réellement choisie. Et aujourd'hui, ben, y a une urgence de vivre. Et donc, ça passe par ce genre de changement que tu es en train de vivre avec la van life. Tu parlais aussi de digital nomade. Donc ça, c'est aussi un terme qui devient à la mode. Donc cette notion de digital nomade, hein, c'est quelque chose qui est apparu récemment aussi. C'est cette envie de trouver un moyen de pouvoir être en mouvement tout en trouvant un modèle économique qui permette de vivre cette réalité.
Alors, je crois que c'est un petit peu plus spécifique quand même à tout ce qui est travail en ligne. Tu vois, je ne suis pas sûre que ça inclut vraiment, par exemple, tout ce qui est plus travail artistique, Voilà, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est vraiment tout ce qui est en ligne, comme par exemple, je sais pas moi, graphiste, enfin voilà, tous les métiers qu'on peut vraiment faire à 100% en ligne, sachant qu'il y a plein de métiers qu'on peut adapter à en ligne. Par exemple, naturopathe, au départ, bon, on peut se dire, ouais, en ligne, c'est un peu bizarre et tout, puis en fait, si, si, ça se fait très bien. Et donc oui, c'est vrai que c'est très tendance en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que ça a encore à voir à cette notion de, ben, on se rend compte que finalement, les idées préconçues qu'on peut avoir peut-être sur la vie, sur ce que devrait être sa vie, sur les choses qu'on devrait construire dans sa vie, toutes ces choses-là, peut-être que ça a été beaucoup relativisé ces deux dernières années et peut-être que ça va continuer à l'être. Et du coup, les gens se disent, bah tiens, moi je vais profiter de la vie, je vais voyager, et donc du coup créer, pourquoi pas, un modèle économique en ligne. C'est peut-être aussi pour ça, je sais pas.
Donc là, dans ton camion, t'as prévu l'électricité, parce que j'imagine qu'il y aura des moments où t'auras besoin d'une connexion internet et l'électricité.
Exactement. Du coup, j'ai acheté une batterie EcoFlow, donc très tendance dans le milieu des vanlifers et des camping-caristes. C'est une batterie lithium, voilà, qui se recharge rapidement, qui est pas mal pour moi, qui suis pas une grande bricoleuse. Parce que tout simplement, comment dire, il y a un petit écran dessus qui te dit ta consommation et qui te dit plus ou moins quand est-ce qu'il faut la recharger, etc. Parce qu'une batterie, finalement, faut la gérer correctement pour la garder longtemps. Donc pour moi, c'était très bien. Il y a des petites, comment dire, des petits branchements 220 volts puis des branchements 12 volts. Voilà, donc c'est assez pratique et elle n'est pas très lourde, ce qui permet du coup de la prendre, de l'emmener dans un café, de la recharger éventuellement s'il y a besoin, enfin des choses comme ça. Enfin pour moi c'était important parce que une vraie grosse batterie de voiture par exemple, pour avoir une certaine autonomie, on peut créer tout un système pour recharger avec le véhicule, etc. Voilà, n'étant pas trop bricoleuse, pour moi c'était un peu compliqué. S'il y a quoi que ce soit pour la soulever, pour l'enlever, ça pèse 60 kilos, j'avais pas trop envie quoi.
Julie, donc là tu vas partir avec ton van direction le Portugal, comment est-ce que tu as construit ton itinéraire?
Alors, bon, moi, je suis très à l'instinct. Donc, généralement, j'ai ma destination, mais le chemin parcouru, il se fait voilà, un petit peu comme ça. Donc, je ne sais pas quelle est ta question exactement.
Ouais, bah, Portugal, pourquoi? Et combien de temps tu vas y mettre pour y arriver? Combien de temps tu vas y rester? Quelle est la suite? Comment tu te projettes dans un mois, deux mois, six mois?
Ok. Alors, donc, Portugal, du coup, j'ai prévu d'y aller, de partir la semaine prochaine. Je vais mettre, je pense, 3-4 jours pour descendre. Je vais quand même aller un peu vite, tout simplement parce que mon camion n'est pas du tout adapté à l'hiver et que mine de rien, il fait encore un petit peu froid. J'ai pas prévu de chauffage ni rien, donc là, je prévois quand même vraiment d'aller dans les pays du sud et d'être dans des températures relativement tempérées. Donc c'est pour cette raison que je vais un peu vite. Je pense que si on était en été, je profiterais peut-être plus du voyage, mais bon, voilà. Et alors après, donc je vise l'Algarve. Très, très, très original, n'est-ce pas? Mais j'adore, c'est trop beau. Et donc j'ai prévu d'y rester au moins un mois. Après je verrai, je vais aller à la rencontre de centres de bien-être. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font là-bas, un petit peu alternatives, je dirais, autour du bien-être, des séjours surf et yoga, etc. Donc peut-être que voilà, je peux contribuer à ce type de projet-là. Moi ça me plaît bien, hein, parce que étant assez sportive, tout ça, j'aime bien aussi les choses un peu dynamiques en rapport avec le bien-être, pas que les choses du type... repos, méditation, relaxation, enfin voilà, j'aime bien quand ça bouge aussi. Donc je vais voir, ça va dépendre en fait un petit peu de, des opportunités, des personnes que je vais rencontrer. S'il y a quelqu'un, s'il y a un projet qui me plaît, à ce moment-là, ben, peut-être que je vais rester tout simplement, peut-être tout l'été, je vais voir. Voilà, on va voir. Mais en tout cas, sinon, une autre destination que j'ai un petit peu en tête, c'est la Norvège, où j'aimerais vraiment aller. Là, c'est vraiment pour moi, parce que c'est trop beau. Mais en été, pas en hiver, hein, parce que le camping, enfin le camping-car, le camion, il va pas supporter l'hiver. Donc je verrai. Je verrai, mais ça se pourrait qu'en juillet, août, je parte en Norvège. Et après, quand il y a des destinations comme ça, où il y a peut-être moins d'opportunités dans les centres de bien-être, à ce moment-là, je focalise mon travail plus en ligne. C'est-à-dire que quand j'ai des périodes où je peux peut-être travailler en direct avec les gens dans les centres, à ce moment-là, je mets un peu, pas en off, mon travail en ligne, parce que j'ai toujours du travail en ligne. Mais je peux réduire un petit peu ma quantité de travail en ligne. Et à l'inverse, quand je vais dans des pays plus pour moi et qui sont pas forcément... où il n'y a pas forcément trop d'opportunités de travail en direct, à ce moment-là, je fais plus de travail en ligne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu pars seul?
Ben oui.
Comment tu gères ça, la solitude, sur la route? Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, c'est de partir avec quelqu'un qui m'angoisse. Là, ce qui m'angoisse vraiment, c'est vraiment de devoir discuter tous les jours, qu'est-ce qu'on fait, où on va, toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Le truc, c'est que j'ai toujours voyagé seule. J'ai même jamais voyagé avec quelqu'un. Donc c'est vrai que j'ai toujours fonctionné, enfin voilà, c'est mon fonctionnement naturel d'être seule. J'apprécie la solitude, mais la solitude, alors je vais à la rencontre des gens. Alors d'ailleurs j'aimerais préciser, parce qu'on m'a souvent dit oui mais tu te sens pas seule, tout ça. Non, en fait quand on voyage on rencontre plein de personnes. Et alors en van, on peut vraiment choisir de s'isoler. Mais quand je voyageais en stop, c'était, même si j'avais envie de m'isoler, c'était pratiquement impossible parce que tous les jours, je tendais le pouce au bord de la route et donc forcément, je rencontrais des personnes, je discutais avec des personnes tout le temps. En van, on peut un peu plus s'isoler, on peut choisir, mais on peut aussi choisir d'aller dans des endroits où il y a d'autres camping-cars, d'autres vans, etc. et puis à la rencontre des gens. Donc en fait, moi, je dose, je dirais, ma vie sociale un petit peu en fonction de mes envies comme ça. Mais voilà, enfin, je sais pas. Après, sinon, non, être seule, j'aime bien... j'ai toujours une vie intérieure assez riche, alors j'aime bien être dans ma bulle un peu, quoi. J'ai besoin de ça, moi.
Tu as déjà expérimenté un peu les campings, est-ce que tu as cette culture de la van life, est-ce que tu les as rencontrés, les autres van lifers? Parce qu'ici en Alsace, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas nombreux, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie communauté de van lifers en France ou en Europe, où des gens se déplacent de spot en spot et se retrouvent.
Oui, elle existe. Alors, comme je le disais, moi je suis un loup solitaire, donc ça fonctionne aussi avec la van life, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'aller à la rencontre des autres, de m'enrichir, de partager, etc., j'y vais. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver d'autres voyageurs. Il y a bien sûr les campings, il y a les aires de camping-car, où forcément, il y a aussi des camping-caristes. Donc c'est encore un peu, j'allais dire, bon, il y a toujours un peu camping-caristes, van-lifers, c'est pas tout à fait pareil, mais ça peut se mélanger quand même. C'est souvent pas le même public, forcément, parce que dans les camping-cars, il y a plus de confort, on va dire. Mais sinon, après, il existe des applications comme Park4Night, très connu, ou forcément, alors si on veut être tout seul, il faut pas aller dessus. Et si on veut justement rencontrer des personnes, bah on peut regarder sur Park4Night, trouver un spot sympa. Donc c'est une application, juste pour préciser, qui recommande des lieux où s'arrêter. Mais après, c'est assez pratique pour trouver par exemple de l'eau, de l'électricité, des choses comme ça, parce que ça indique aussi les points d'eau gratuits, par exemple. On peut trouver, je crois, aussi les toilettes, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est des choses pratiques qu'on peut trouver dessus. Et donc, des spots. Et comme tout le monde l'utilise, tout le monde va au même endroit. Donc, voilà, quand on veut rencontrer des gens, on peut utiliser Park4Night, par exemple.
Si tu devais expliquer la van life à quelqu'un, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que partir avec un camion? Parce que forcément, ça interpelle les gens autour de toi. Donc, qu'est-ce que c'est que la van life et pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans?
Bah ouais, je pourrais l'expliquer, mais pour moi la van life, c'est la même chose que la question de c'est quoi voyager, tu vois. C'est, il y a une van life par individu, tous les camions ne se ressemblent pas, tous n'ont pas le même niveau de confort, il y en a qui ont des douches, il y en a qui ont rien du tout, il y en a qui ont juste un matelas posé par terre, il y en a qui ont, enfin voilà, donc voilà. Mais bon, si je devais du coup vraiment mettre une définition, je dirais, bah c'est tout simplement vivre dans un véhicule aménagé ou mobile, ouais, vivre dans un véhicule, après peu importe comment il est aménagé. Il y a des personnes qui vont dire la van life, c'est ceux qui y sont 100% du temps. Il y a des personnes qui vont dire, bah ça c'est... comment dire, il y a des personnes qui vont se sentir van lifer juste en faisant des week-ends, avec leur van par exemple. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas trop sectoriser. C'est plus un état d'esprit en fait d'aimer explorer. Je crois qu'il y a vraiment le côté exploration dans le van aussi, parce qu'on peut partir sur des routes, on peut partir dans... Voilà, on part dans une direction, on va explorer, on va trouver un endroit sympa pour s'arrêter, peut-être faire une randonnée, admettons sur un week-end quoi.
Et qu'est-ce que ça t'apporte?
À moi? Bah déjà, voir du paysage, voir d'autres paysages, en fait. Partir un peu de chez soi, mais partir plus que sur une journée. Parce que forcément, si je pars d'Alsace sur une journée, je ne vais pas très loin. J'ai les alentours, mais voilà. Du coup, là, on peut vraiment partir un peu plus loin. On peut voir d'autres paysages. Donc, pour moi, c'est ressourçant. Toujours le rapport à la nature. Et puis après, il y a la simplicité. En fait, ça fait vraiment partie de mon projet. C'est le chercher la simplicité, avoir un minimum d'affaires avec moi. Et tout. On prend beaucoup plus conscience des choses du quotidien, en fait. Faire la vaisselle, c'est, voilà, faut prendre la bassine, faut faire chauffer un petit peu d'eau, ça prend du temps. Il y a un autre niveau de conscience dans tout ce qu'on fait du quotidien. Et il y a beaucoup de simplicité. Pas trop de vêtements, se laver de manière simple. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des choses que je retrouve pas forcément dans une vie de sédentaire, qui me plaisent beaucoup dans la van life.
Julie, merci.
Avec plaisir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regard d'ailleurs ». ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous!